un petit peu dans le passé. Cette fois, on va pas parler d'exclus et de nouveaux films. Non, il reste encore quelques films, Jérémy. Et Justin, on t'a pas beaucoup entendu, mais cette fois, on va t'entendre.
On est pas bien avec Justin.
Et on va parler du Lézard Noir de Fukasaku Kinji, donc qui était projeté dans le cadre de la carte blanche Mauvais Genre.
Ouais, l'émission de radio.
Lézard Noir, carte blanche.
Bravo. Donc, ce soir, on est drôle. Ouais. Justin, vas-y.
Donc, c'était dans le cadre d'une sélection accordée à Mauvais Genre pour les 20 ans de l'émission. Donc, l'émission qui passe sur France Culture, de François Angelet, qui présentait d'ailleurs la séance. Donc, c'est un film assez rare, vu qu'apparemment, il a été projeté il y a 20 ans à l'Étrange Festival pour la dernière fois. Et puis, il a juste été vu peut-être
à la Cinémathèque,
voilà, pour la rétro Kinji Fukasaku il y a 2-3 ans, je crois.
Donc, c'était une copie 35.
Voilà.
Voilà, ça fallait le dire quand même.
Et donc c'est un film qui est donc une adaptation de Edogawa Rampo, donc par Kinji Fukasaku, donc ça changera pas mal pour ceux qui connaissent surtout ces films de Yakuza, là c'est une toute autre ambiance. Et donc qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est en fait une sorte de duel entre donc le détective donc Akechi, donc c'est un personnage fameux de Edogawa Rampo, et un criminel d'envergure, donc le Lézard Noir. Donc c'est à moitié donc un duel au niveau de il y a un enlèvement en fait de la fille d'un milliardaire japonais, et donc on convoque donc le détective Akechi pour retrouver la jeune femme, et donc il va se dérouler, voilà, sans rentrer dans les détails, mais il va avoir un duel entre le Lézard Noir qui a enlevé la jeune femme et le détective Akechi. Et donc un mélange de duel, voilà, un défi, et un mélange d'histoire d'amour par rapport au Lézard Noir qui va tomber amoureux d'Akechi. Alors le point intéressant, donc, c'est le côté un peu camp, étant donné que le Lézard Noir est joué par un... Donc c'est un personnage féminin, mais qui est joué par un homme, donc qui est l'acteur, donc j'ai oublié le nom.
Miwa.
Ok.
C'est Miwa.
Akihiro Maruyama.
Qui est l'amant de l'écrivain Mishima.
Mishima, c'est ça, oui, Mishima en plus après.
Bah, il faut spécifier que, en fait, c'est l'adaptation de la pièce de théâtre tirée du roman de Rambo.
D'ailleurs, c'est intéressant de dire, parce qu'il y a un côté justement très théâtral, très. Donc, parce que ce côté camp, en fait, c'est un mélange de mélodrame, de mystère, et puis de côté un peu camp outrancier.
Sériel.
Oui, c'est sériel. Donc, le côté sériel fonctionne. Au niveau des transitions, voilà, notamment de Akechi, la manière dont il a de résoudre les impasses de l'enquête, où il y a quelques raccourcis qui feront sourire, ou même son talent de déguisement qui arrive de manière assez inopinée.
C'est le propre du personnage, en fait. Ouais. C'est une espèce de commissaire juve qui arrive à se déguiser tout le temps, en fait.
Et qui a beaucoup d'acolytes pour l'aider, qui sont donc séduits à chaque fois. Donc c'est assez intéressant à ce niveau, et puis au niveau esthétique aussi, vu que on peut imaginer c'est en quelque sorte tout ce qu'on pouvait voir dans le cinéma italien un peu bis de l'époque, comme Mario Bava avec Danger Diabolique, ou ces films gothiques en couleur, donc avec des effets au niveau des arrière-plans, des décors, de la photo, et ça mélangeait avec le côté Edogawa Rampo, avec le côté très macabre, très sexué, très pervers, dont, bon, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir vu des adaptations d'Edogawa Rampo ou d'avoir lu... Donc il y a une séquence avec un canapé, un sofa, qui cache des choses. Voilà, normalement, pour ceux qui connaissent un peu, dès que le sofa arrive, on dit que bon, il y a des choses pas cachées, tout dit qu'à l'intérieur.
Sofa donc... so good.
Chelé.
Papa.
Et donc c'est l'intérêt du... C'est l'intérêt, en fait, au niveau du ton. Il y a une espèce d'outrance au niveau du ton entre ce côté amour impossible entre Akechi et puis la criminelle. Et puis, qui peut fonctionner au premier degré et à la fois au second, à travers le jeu outrancier de l'acteur voilà, qui est vraiment dans le too much total à chaque instant. Voilà, la moindre émotion, c'est toute une gamme de gestuels, de larmes, de grimaces et autres, donc qui fait fonctionner la chose. Donc, et il y a un équilibre qui se tient vraiment tout le film, où voilà, on a le sourire, mais en même temps il y a une émotion sincère qui passe malgré tout pendant tout le film. Donc ce côté camp, ce côté mystérieux, et puis policier, qui fonctionne assez bien malgré voilà, des raccourcis, et puis quelques effets voilà, d'époque qui peuvent prêter à sourire.
Et là,
ce que je trouve assez intéressant, c'est que donc, quelques années avant ce film par Fukasaku, il y avait une autre adaptation par Uematsu que j'ai eu l'occasion de voir. Les deux films sont extrêmement proches, c'est pratiquement scène par scène. Alors effectivement, la mise en scène varie un peu, mais au niveau des dialogues, des situations, c'est la même chose. La version de Uematsu a des passages musicaux avec des chansons, etc., qui ont un côté un peu kitsch, mais très charmeur quand même. Donc il y a quand même cette dimension de l'outrance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à quelques années de différence, ces deux films qui se ressemblent énormément ont eu des résultats en salle totalement différents, puisque la version de Uematsu a été un échec, et celle de Fukasaku a été... Si elle est encore diffusée aujourd'hui, c'est qu'elle a quand même acquis une certaine réputation et elle est culte et peut-être un bon... Oh non, elle est assez culte. Mais et je pense, de mon point de vue, que ça a beaucoup à voir avec la performance de Miwa ouais, dans le rôle du lézard noir, qui est ce personnage travesti mais qui a un charme absolument fou, qui a un côté énigmatique, effectivement très théâtral, mais cette théâtralité... est cohérente avec le personnage, est cohérente avec ce lézard noir qui est quand même un personnage très égotique, qui se met beaucoup en scène, et je pense que Miwa l'incarne vraiment parfaitement et que ça, le film vraiment gravite autour d'elle.
Film tient beaucoup sur la performance de Miwa.
Voilà. Ouais. Et on sent que quelque part ce film est un ode à Miwa, et c'est ça qui est assez fabuleux et qui fait la force du coup de cette version.
Et puis un point intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça fait un peu le pont avec... les Pinku qui seront produits après, vu que là, ils commencent à avoir un peu de nudité, voilà, il y a des mannequins nus en arrière-plan, il y a des situations...
D'ailleurs, Mishima.
D'ailleurs, oui, Mishima joue un mannequin nu. Je ne l'ai pas remarqué non plus, mais il joue.
Je l'ai pas remarqué. Et donc, ça fait un peu le pont avec ça, parce que ça garde quand même une sobriété, un érotisme latent, mais qui reste quand même assez sombre, sans aller dans les excès qui vont arriver pas très longtemps après dans le cinéma japonais, dans les Pinku et autres. Donc il y a un espèce d'équilibre, ouais, c'est quand même un film de studio tenu grand public qui a été un grand succès, et on ressent ça avec les aspects bis, les aspects un peu plus provocants qui arriveront par la suite, donc ça se tient plutôt bien à ce niveau.
Très bien.
Ce qui est intéressant, le fait d'avoir Fukasaku la mise en scène, c'est que la subversion arrive aussi par le fait qu'effectivement on a Miwa qui s'accapare ce rôle qui finalement va configurer le lézard noir. Ce qui va être fait après, puisque maintenant, quand on joue la pièce de théâtre au Japon, on prend toujours des acteurs travestis pour jouer le personnage. Donc il a inauguré finalement une nouvelle représentation du personnage. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'on a en face de Miwa, on a cet acteur, donc Isao Kimura, qui avait joué dans les 7 samouraïs de Kurosawa, qui était un acteur très respecté. Quand on le voit jouer premier degré cette romance et qui assure le répondant avec Miwa, ça rend le récit encore plus touchant, je trouve. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, Fukasaku, il se moque de tous les twists, de tous les retournements de situation, en disant aux gens, vous connaissez tous ces retournements de situation, c'est pas ça le plus important, ça c'est de la vanne maintenant, donc concentrons-nous sur cette
romance.
C'est
que la romance où il n'y a pas cette distance-là, d'autres parodies, effectivement.
Non, mais c'est vrai que c'était une découverte assez intéressante, surtout qu'il Fukasaku sortait un peu du... Je pense qu'il était déjà sous contrat avec la Toei à l'époque, et c'est marrant qu'il se permette cette belle parenthèse. C'est vraiment...
Il y a toujours des films un peu bis, des fois parfaitement entrecoupés, des films de découverte, on fait des trucs un petit peu...
Bien sûr, mais ce qui est marrant, c'est que tu mentionnais les poupées de cire, les créatures, les humains de cire, finalement, dans les grottes et tout ça. Ça a toujours été aussi une constante, je pense, dans les films de tirés de Rampo. Il y avait déjà, dans les années 50, une adaptation de L'homme araignée, où il y avait déjà des femmes comme ça, en maillot.
Mais plus tard, dans le Malformed Men.
Oui, t'es en train
de voir. Voilà, c'est ça. Il y avait déjà ces aspects-là. Bon, en plus, là, déjà, on ne plus. On ne plus tout mettre déjà, on ne plus autre aussi. Ouais.
Très bien, je te laisse la parole, Fabien, pour nous présenter une page folle de Kinukasa Tenosuke, oui, qui était donc le retour de flamme en fait de l'étrange festival cette année.
Oui, tout à fait. Donc cette année, donc Serge Bomber via donc sa société Lobster Film ont restauré donc un film japonais très important, puisque vous savez, la plupart des films japonais ont disparu, les films japonais d'avant-guerre ont disparu, et c'est vrai que ce film-là, qui a été réalisé en 1926, donc par Tetsuke Kingasa qui réalisera plus tard des films comme La Porte de l'Enfer, notamment, je crois que la première version de La Ballade de Narayama, c'est lui aussi, je crois.
Oui, je crois.
Il me semble bien. Donc ce film qui est un des premiers exemples de surréalisme au Japon et qui est une sorte aussi de réponse au film expressionnisme allemand et de Alain Murnau ou Fritz Lang, c'est un film qui se déroule intégralement dans un asile, c'est un film de 1926, je précise, c'est un film qui se déroule uniquement dans un asile et le film n'est pas très narratif, c'est plutôt des espèces de situations un petit peu étranges entre une femme qui a été internée, une jeune fille qui vient la voir qui serait sa fille et ce vieil homme qui serait donc le mari de cette femme qui fait des allers-retours dans l'asile et
qui se fait embaucher en fait voilà, pour
être avec elle et tout ça. Et bien sûr, donc des histoires assez... voilà, nous avons perdu Marc.
Non, c'est pas Marc, c'est Nicolas.
Nicolas, pardon.
Peut-être qu'on l'a perdu aussi, Marc.
je fatigue aussi. Et donc, c'est un film qui a été entièrement restauré donc, par l'Obscur Film. Donc, restauration 4K. Il me semble que la restauration ait pris 2 ans, c'est ce qu'il avait dit Serge Gombert, il me semble. Un peu plus de 2 ans.
C'est possible, mais on regarde pas, je me rappelle plus.
Voilà, mais en fait, donc, c'est très important que ce film-là soit restauré aujourd'hui parce que c'est vraiment une œuvre... super importante avec des images vraiment magnifiques. Il n'y a aucun carton de narration, hein. C'est vraiment un récit comme ça, continu ou plutôt discontinu pendant 59 minutes avec des images assez dingues. 50 ans avant Lynch, on avait des images quand même, des images de spirales, des jeux d'ombre, de lumière, des surimpositions d'images. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le film, à titre personnel, c'est que le chef cadreur de ce film-là et le concepteur de tout ce qui était effet visuel, c'est Eiji Tsuburaya, qui plus tard allait devenir le grand concepteur d'effets spéciaux au Japon, des films comme Godzilla, c'est lui qui a créé Ultraman, ce genre de choses. Et donc, en fait, il avait fait ses premières armes en tant que caméraman, à cette époque-là, monteur et... on n'a pas passé encore vraiment des effets spéciaux, mais tous les effets optiques et trucage visuel, il y a des effets notamment de pancartes qui apparaissent dans le film, des effets d'éclairs, des effets, encore une fois, les super surimpositions d'images qu'on verra plus tard dans des films comme Matango, ce genre de choses, et puis les effets de spirale qu'on voit dans ce film. Et il y a aussi des scènes de danse aussi, comme ça, avec des personnages qui se mettent à danser. Il y a une scène, le film commence d'abord par un personnage qui danse avec un masque et des voiles dans une espèce de décors un peu surréaliste. On a des personnages masqués aussi à un moment donné, des masques de théâtre no. Donc on peut pas résumer un tel film comme ça, c'est juste que par contre le film, en plus de sa restauration, a fait l'objet d'une nouvelle musique qui collait vraiment parfaitement bien à l'atmosphère du métrage. Oui. Et donc Serge Brombert a dit que le film allait sortir normalement l'année prochaine.
En fait, il devait sortir cette année. Et puis, ils se sont rendus compte... Alors, j'ai oublié le terme japonais.
Alors, en fait, à cette époque-là, les films étaient commentés parce qu'on appelait des benshi. C'était des commentateurs qui vous expliquaient ce qui passait à l'écran et qui, en fait, devaient vous faire ressurgir l'émotion de ce que vous voyez à l'écran. Et visiblement, entre-temps, ils auraient retrouvé...
Le texte avait été... Ils étaient sûrs que le texte avait été perdu. Donc, ils s'étaient dit, c'est pas grave, on va sortir le film. C'est incompréhensible, mais c'est beau, il y a quelque chose, on a travaillé la musique, on a restauré. Et entre-temps, apparemment, le texte aurait été retrouvé, donc là, ils sont à la recherche du texte, pour pouvoir, en fait, sortir le film dès qu'ils ont retrouvé le texte.
Avec une version benchy,
Il y a une chose qu'il faut dire sur ce film, c'est qu'au niveau des décors notamment, ça s'inspire du cinéma futuriste italien des années 10, et notamment, ça fait référence à Thaïs de Bragaglia. Notamment.
D'accord.
C'est pas surréaliste, mais futuriste au niveau du décor.
D'accord.
Après, le fait de s'intéresser aux déficients mentaux, ça, effectivement, c'est plus surréaliste.
Lila, quelque chose à ajouter ?
À ajouter, je ne sais pas, mais peut-être pour résumer en une phrase, moi, c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques années. Et ce qui m'a vraiment marqué, effectivement, c'est de voir que le travail visuel qui avait été fait sur ce film, sur les perspectives, les ombres, les surimpressions, alors qu'on n'est qu'en 1926, et de se rendre compte, ça remonte à si longtemps, ils arrivaient déjà à faire ça à ce moment-là. Et c'est assez fou de se dire que déjà en 1926, on arrivait à avoir de tels effets, hein, vraiment une telle approche sur les visuels, etc. Et donc, effectivement, sortir un film comme ça aujourd'hui, ça n'aurait pas forcément un... Enfin, ça aurait quand même un intérêt, parce que le film est beau, formellement, il faut le dire, il est très très beau. Mais savoir qu'en plus, c'est quelque chose qui est quand même très vieux, qui est un peu au fondement de tout, pour moi, ça reste un incontournable, en fait, du cinéma japonais et du cinéma mondial, plus globalement. Et puisqu'il aura la chance de ressortir en salle, pour moi, voilà, c'est
quelque chose. Hein.
Enfin, en salle, non, mais...
En DVD.
De bénéficier, voilà, d'une restauration, c'est l'occasion, voilà, de vraiment voir
c'est une nouvelle chance pour ce film, en fait, de se faire connaître.
Ouais, mais moi je crois que justement le film a été montré en France à l'époque parce que je m'en souviens plus. Enfin, Justin était là au.
Déjà à l'époque ?
Non,
c'est parce qu'on avait fait une conférence sur l'histoire de l'exploitation du cinéma japonais en France.
Oui, ça avait dû être projeté au Club de l'Étoile dans les années 40-50, non ?
Oui, voilà, et que justement Tenosuke Kinugasa avait fait un tour avec son film, il était passé par la Russie, etc., et par différents pays, et il est arrivé jusqu'en France avec sa bobine, et en fait c'était le premier film japonais... jamais montré en France.
Putain, ils ont dû être surpris. Hein.
C'était ça a dû leur faire bizarre.
La conférence de Pascal Alex Vincent.
Ouais, oui,
voilà. Cinématique, quoi.
Ouais.
Très bien. Et ben, on va attaquer le dernier film qui n'est pas 100% asiatique, qui était le film de clôture du festival, hein, donc un film d'animation, Mutafukaze, qui donc est. On aura plus l'impression qu'il est français pour nous, mais ça reste une coproduction franco-japonaise. Fabien.
Oui, donc
Mutafukaze,
en fait, qui est l'adaptation de la bande dessinée éponyme de Ankama Edition, donc BD de Guillaume Renard. Et donc, ce film est donc une coproduction entre le pôle animation d'Ankama, donc Ankama Animation, et les studios 4C au Japon. Studio 4C qui avait produit des films comme Mind Game ou l'adaptation de La Mer Béton. Donc un studio qui est connu toujours pour ses univers urbains extrêmement colorés et des personnages qui affirment une certaine, on va dire, élasticité, toujours un peu dans la distorsion. Donc voilà, en fait, donc le film avait été en production pendant... Enfin, le film a été fabriqué, on va dire, pendant 8 ans. Voilà, entre le premier contact avec les studios 4C et Ankama et le film fini cette année, il s'est passé 8 ans.
Ah, mais du coup, ils ont lancé le film au moment où la BD était hype, en fait.
Ouais, voilà, en fait...
C'est un peu ça.
Et en fait, le studio 4C a bossé sur le film entre 2011 et 2015.
Ouais, mais voilà, ouais, parce que Mutafukaze, c'était hyper... hype de la BD française à la fin des années 2000.
Exactement, et en gros ils ont bossé encore 2 ans de plus après que le film soit terminé au Japon. Donc le film raconte, ça se passe dans une version fantasmée, un miroir de Los Angeles qui s'appelle Death Meat City, et on suit deux petits personnages, donc on a Angelino, qui est un petit bonhomme avec une tête toute ronde, avec un corps tout noir charbonné, tout ça. Et son pote Vince, qui est un petit personnage avec une tête de mort qui brûle tout le temps. Et en fait, lui, Angelino, c'est un livreur. Il livre des trucs de pizza, tout ça. Et bon, dans le quotidien, il s'ennuie, il regarde des matchs de luchador à la télévision. Et en fait, un jour... Angelino commence à contracter des pouvoirs et il est traqué par une agence composée d'hommes en noir et à leur tête on a un monsieur qui s'appelle le Monsieur Maccabée, et donc cette organisation cherche à le capturer. Et en fait, lui, il va découvrir ses pouvoirs et il va devoir renoncer à son côté obscur et peut-être se ranger parmi les agents du bien. Voilà, donc récit initiatique par excellence. Voilà.
On t'écoute, Fabien.
Oui, je sais, alors j'essaie de maintenir le résumé du film alors qu'il y a des échanges de bière devant moi. mais clairement, moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que bah, déjà, il est assez court, il fait... Il fait 1h30 et du coup, c'est une expérience visuelle qui est vraiment très intéressante. On retrouve notamment tout ce travail sur les décors qu'on pouvait voir dans les précédents films 4C. Je sais que le monsieur Kimura, qui est le chef déco du film, avait bossé sur Akira, il avait bossé sur Amer Béton aussi. Et le co-réalisateur du film, Shojiro Nishimi, c'est son premier film lui aussi en tant que co-réalisateur, puisqu'il co-réalise le film avec Guillaume Renard, l'auteur de la BD. Et Monsieur Nishimi, c'est quelqu'un de très intéressant parce que c'était un animateur sur des films comme Mer Béton et sur Akira notamment, donc c'est pas totalement un tocard. Et il a également bossé pour beaucoup de productions Warner Télévision, il a bossé sur Teeny Toons, il a bossé sur la série animée Batman, il avait bossé sur Superman, il avait fait aussi des films animation Warner comme le Batman Beyond Return of the Joker et le film Batman Superman World's Finest. Donc quelqu'un qui a fait pas mal de productions super intéressantes. Et c'est vrai que moi je connaissais pas du tout la bande dessinée pour le coup. Et c'est vrai que le film m'a beaucoup surpris parce qu'il y avait un renouvellement visuel assez constant dans la production design. On pouvait passer d'un décor solaire de ghetto LA assez coloré à une espèce de forteresse souterraine à la Akira avec des espèces de tuyauteries noires et blancs avec quelques fonds rouges, tout ça, donc des choses très intéressantes. On retrouve vraiment aussi ce côté toujours élastique des personnages des studios 4C, les personnages d'Amer Béton, comme ça d'un coup leurs jambes commencent à être énormes ou leurs bras commencent à se distordre et tout ça. Donc c'était vraiment super, scène d'action très très réussie, pas mal de gunfight très intéressante avec pas mal de tension, enfin, c'est vraiment très très bien storyboardé. Après, je suis pas un expert en animation, donc je ne saurais pas employer les bons termes techniques. Mais après, on a ce côté film street, c'est-à-dire on a Aurel San et Gringe qui font les voix des héros principaux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils forcent pas trop le trait. On sent qu'ils maîtrisent bien, entre guillemets, excusez-moi le cliché, le langage de la rue, mais ils en font pas trop non plus dans ta mère, ce genre de choses. Donc, il en faut pas trop. On va dire que le seul truc que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est peut-être la BO qui est un peu trop dubstep à mon goût et qui est pas assez hip-hop, surtout pour cet univers-là. Après, il y a un côté dans le film un peu à la John Carpenter, à l'invasion Los Angeles, parce que ces personnages-là vivent dans cette ville américaine qui est... on montre les États-Unis finalement qui est plus de la science-fiction avec ce qu'on vit actuellement, qui est une Amérique qui accule les citoyens, surtout les citoyens qui vivent en Californie, près du Mexique, tout ça. Et on va dire qu'il y a une espèce d'inframonde, un monde en dessous qui manipule vraiment les ficelles, quoi. Je veux dire, on n'est pas loin du mec d'Invasion Los Angeles qui met ses lunettes et qui voit des aliens sous les lunettes. Donc là-dessus, c'était vraiment intéressant. Et en parallèle, on a des luchadors, encore une fois, qui forment une communauté secrète de super-héros qui protège l'humanité depuis des millénaires. Alors ça, c'est un truc que j'ai vraiment adoré dans le film. Donc voilà, en plus, il a un super casting vocal dans les rôles secondaires. On a Alain Dorval qui fait la voix de Stallone, qui joue le rôle d'un des luchadors. On a Féodor Atkin aussi, qui est super comédien. On a Gilbert Lévy qui fait les voix dans Les Simpsons et dans South Park. Donc du coup, ils se sont fendus d'une super distribution. Le film, c'est une très très bonne surprise. Malheureusement, il n'y a pas encore de sortie en France, puisque le film a été cofinancé par les deux studios, mais il n'y a pas eu d'aide CNC. Le film doit sortir au Japon, doit sortir en Allemagne, ils sont en train de faire le doublage pour les États-Unis.
Du coup, c'est intéressant parce que la version originale, c'est la version française. Oui. Et à quoi va ressembler la version japonaise et anglaise?
Alors, ce que disait le réalisateur, c'est qu'en fait, il avait écrit le scénario en français qui était réadapté au Japon, mais quand ils ont fait l'animation japonaise, ils se sont calés sur du lip-sync japonais. Donc, il a dû refaire son travail d'adaptation pour que ça cale avec la version française. Donc je sais pas trop ce qu'il en est pour le doublage japonais. Je sais que le film doit sortir là-bas dans le premier trimestre 2018, normalement. On va voir. Peut-être qu'on aura plus d'informations si on rencontre de nouveau le réalisateur, puisque le film va être projeté au PIF en décembre, donc peut-être qu'on en saura plus d'ici là.
Ce serait étonnant quand même une grosse production comme ça, qu'il n'y ait pas de distributeur.
Alors en fait, tout simplement parce que Ankama avait fait un film Dofus, sorti il y a 2 ans, et Dofus, qui était promis un glorieux avenir en termes de box-office en France, a été un échec. Et le souci, c'est que Dofus, qui était un film tout public, normalement, ça aurait dû marcher. Là, Mutafukaz, on est obligé de repositionner l'angle de distribution parce que c'est un public différent. Ça va être un public d'ado, et le film aura sûrement une classification interdite au moins de 12 parce que c'est violent, il y a du sang, il y a des gros mots, tout ce que tu veux. Donc du coup, faut vendre le film autrement, même si le public en soi il existe, quoi, hein, je veux dire, surtout si tu tapes sur les fans de d'Orelsan et de Gringe, tu peux encore plus utiliser la notoriété de ces mecs là pour vendre le film. Voilà, après il faut vendre ça comme un produit de franchise, et je sais pas encore si les gens connaissent Mutafukaz aujourd'hui, mais moi je connaissais pas quand je suis allé voir le film.
Parce qu'apparemment c'est retombé d'après ce que dit Kefren.
Bah justement, Mutafukaz ça venait de l'écurie Ankama à l'époque, de leur série comme Dofus, etc.
C'est ce qu'il dit. Hein.
Bah, parce qu'il l'a dit.
Oui, oui, non, mais oui.
Oui, c'est les trois, ça fait partie des trois franchises phares, effectivement, dans Kama.
Oui. Et...
qui a eu son petit succès, mais maintenant.
Oui, mais justement, il a une aura culte dans les gens qui suivent la BD, mais ailleurs, je sais pas, c'est dans les gens qui suivent l'animation et la BD.
Est-ce que
France...
le film n'arrive pas trop tard, du coup, par rapport à la période où il a eu sa renommée?
C'est la question.
On verra, en fait, s'il sort.
Bon, il y aura les auditeurs de Skyrock, je pense qu'ils vont aller.
C'est
sur le rap.
Il y a encore des auditeurs de Skyrock.
Non, mais c'est pas bête, donc c'est avec une bonne promo bien orientée.
Bien sûr, tout à fait.
Et pour ça, il faut qu'il y ait un distributeur.
Non, mais moi, il faut défendre l'animation française. Et d'ailleurs, regardez Wakfu. Pour faire le lien entre justement Mutafukaz et machin, Wakfu, c'est justement la bonne synthèse entre l'animation japonaise, américaine et française.
Ce qui est bien avec Mutafukaz, c'est qu'ils utilisent un peu de 3D, mais pas trop non plus, tu vois. On reste vraiment sur de la 2D à fond. On sent qu'ils utilisent la 3D pour quelques animations de décor quand ils n'ont pas le choix, ou quand c'est plus rapide et ça coûte moins de thunes. Mais ils restent quand même sur de la 2D à fond, et il y a très peu de failles dans le film à ce niveau-là. En même temps, Studio 4C, c'est un peu des poids lourds leur spécialité.
Puis c'est un peu dommage parce qu'il y a pas mal de films d'animation françaises qui se sont plantés depuis 3-4 ans, des très bonnes choses.
Bien sûr.
Qui sont sortis, qui n'ont pas eu le succès. Comment s'appelle le film steampunk là, qui est sorti il y a un an?
Il est sorti l'année dernière.
Le monde truqué,
Avril et le monde truqué, par exemple, qui n'a pas eu le succès escompté.
Il y avait 4 films d'animation qui étaient sortis.
Oui, voilà, tous s'est planté, c'est un peu dommage.
Mais succès critique, quoi.
Alors qu'il y avait de la qualité, était là, c'est un peu dommage que
les gens se fassent. Phantom Boy.
Oui, voilà, je pensais à ça aussi.
Personne d'autre a vu le film? Personne n'est allé à la clôture, en fait.
Ah bah, il y avait PSG Lyon,
ok.
0-2.
Alors, avant de passer au foot, en fait, en off, je vais refaire un dernier tour de table pour savoir si vous avez un regret particulier sur cette édition, en fait, puisque cette nouvelle édition de l'Étrange Festival n'a pas forcément très bien commencé. En tout cas, dans les couloirs, on entendait que les films étaient pas super. Moi, mon premier film asiatique, c'était Purgatorio. Ça commençait mal. Bon, voilà. Est-ce que vous avez... c'est le bureau des pleurs, là, pour un tour de table.
Donc ça vient les coups de cœur.
Ouais, ouais, bah on a fait les coups de cœur, maintenant c'est les coups de gueule.
Alors, c'était... Ouais, j'avais d'autres films.
Ah bah oui, mais bon. Tant pis.
C'est le bien qui contrôle.
Voilà. T'as bien ?
Cette année, j'ai pas eu mon film bonheur. Les films bonheur, les années précédentes, c'était... c'était des deux sous-notions. C'était Tokyo Tribe, et l'année d'après, c'était Love and Peace. Donc toujours, on va dire, le film 100% kiff. Et c'est vrai qu'il y a des films que j'attendais cette année, des films asiatiques, comme par exemple JK Ninja Girl, ou alors Brave Storm, qui était un film de robot géant, qui était fait au Japon, une espèce de sous-Pacific Rim, mais qui combinait plusieurs franchises de tokusatsu. Et c'est vrai que c'était pas un film de gros studio, et je me disais, ah, ça aurait pu être à l'Étrange Festival, et c'était parfait pour l'Étrange, et je me suis dit... que ça aurait pu y être, et je pense que ça aurait pu être mon film 100% kiff, et j'aurais bien voulu qu'il y soit.
Nicolas.
Moi je comprends pas, enfin, est-ce qu'il y a déjà eu un film de Guillermo del Toro un film de Guillermo del Toro à l'étrange?
Non, mais il pèse trop dans le game pour l'étrange.
Ah, mais il était à Venise de toute façon.
Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des films de Venise qui étaient à l'étrange, hein? Non.
Thelma
est à Toronto, je crois. Voilà.
Ouais,
mais
je ne comprends pas.
En fait, Guillermo del Toro, de ce que j'ai vu, il va être à Lyon et tout. C'est un des réalisateurs les plus accessibles possibles. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'essayent pas d'avoir. Ils auraient pu avoir le chef of Waiter. Ils auraient pu l'inviter. Et je ne comprends pas pourquoi. Ouais, vous faire une rétro, la rigueur. Et je comprends pourquoi l'étrange n'essaye pas de l'avoir.
C'est parce que là, c'est problématique, c'est parce que ça reste quand même encore un film de Major, même si c'est Fox Searchlight qui produit le film. Je pense que les films de Major comme ça, c'est beaucoup. C'est comme Mother, ça reste un film de Major. Ouais. Et dès que tu tapes dans un film de Major où tu es sûr d'avoir une distribution, c'est beaucoup plus cher, et les enjeux sont pas les mêmes.
Voilà.
Et après, c'est une vraie question. Est-ce que le rôle de l'étrange, voilà, c'est d'avoir c'est... effectivement voilà. des avant-premières, des films qu'on va voir. Moi, c'est un... j'ai pas vu beaucoup de films cette année, comme vous l'avez compris.
Pour moi, c'est.
Mais c'est un peu l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire, The Villainess, on l'avait vu à Cannes déjà. Il a déjà un distributeur. Le Kurosawa, on l'a découvert à Cannes. Il a déjà un distributeur. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'étrange de présenter des films que finalement on peut voir
Non, pas forcément. Mais ils le font.
Ils vont sortir.
Ils le font.
Qu'ont déjà une visibilité.
Ils le font tous les ans. Donc pourquoi pas Guillermo del Toro.
Bah peut-être le coup.
Voilà, peut-être si c'est ça ou. Je sais pas. Si en tout cas, en tant que réalisateur, c'est un mec qui fait c'est un amour.
Oui, mais t'as eu des tâches.
Mais tu pouvais faire des câlins avec lui dans le cou, dans les couleurs
mais,
de Cannes.
Mais
voilà,
ça,
c'est
pas.
Le film, il est pas à lui non plus.
Le film, il faut.
C'est pas son plus gros film non plus.
T'as eu le Xavier.
Il a été.
Après, ouais, bon, il a eu Lion d'Or.
Il a eu Lion d'Or à Venus, quoi.
Oui, voilà.
Il pèse maintenant. Il pèse. L'étrange.
Marc.
Non, aucun regret. J'ai vu 4 films, 3 qui étaient moyens et 1 qui était un chef-d'œuvre, qui est donc Les Garçons Sauvages, film de l'année, donc aucun regret.
Kefren
moi... Ah oui, moi je me demande où était Takashi Miike en fait cette année.
Bah, il peut pas
il était à Cannes aussi.
Parce que, oui, mais Terraformers était à Cannes et pourtant on s'est tapé cette merde aussi à l'étrange.
Terraformers était au marché du film, non?
Oui, c'était au marché du film.
Ouais, marché du film.
Il y avait eu Yakuza pour tout ça.
Ouais. Oui, Yakuza Apocalypse c'était à la quinzaine et on se tapait, ça allait être genre, c'était de la merde. Et Terraformers aussi, pareil. Moi, alors que là, justement, l'habitant de l'infini, Miike, il commence à revenir un peu. C'est, ici, il est sur la bonne pente.
Si.
Et il aurait pu être attaqué. Et pire encore, parce que Jojo, qui avait quoi, de super bons retours, n'était pas non plus à l'étranger. Ça, c'est encore
alors,
plus
une information qui peut peut-être aider à comprendre aussi la programmation, qui, même si, à mon avis, les films de Miike ne sont pas forcément très chers, mais j'en sais rien. L'Étrange Festival a perdu le sponsor financier Canal+, cette année. Donc, financièrement, c'était un peu plus chaud.
Merci, Bolloré.
Et je pense que ça peut expliquer aussi pas mal de films qui n'ont pas été sélectionnés pour des raisons totalement budgétaires
et
artistiques.
Et aussi ce côté effectivement à la première et des films qui ont déjà un distributeur, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas à faire le sous-titrage par exemple. Il y a eu beaucoup de projections avec des sous-titres anglais.
Oui, il y a eu beaucoup plus de sous-titres, voire pas de sous-titres. Il y a eu beaucoup plus de projections en fait. Enfin, ouais, des sous-titres anglais. Je ne sais pas si j'ai vu plus de deux films avec des sous-titres français moi cette année. Alors que d'habitude c'est l'exception le sous-titre anglais. Donc je pense que ça peut jouer en fait aussi sur la sélection des films.
C'est vrai, mais moi c'est juste ça que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu de Miike en fait. Et moi c'est là que j'attendais
de voir le truc quoi.
Oui mais on l'a le Sonosan de toute façon, mais qu'il n'y ait pas eu de Miike, j'étais déçu un peu. Surtout qu'il a l'air d'être bien quoi, et quand c'est de la merde il est là, mais quand ça a l'air d'être bien il n'est pas là. Ça m'a déçu.
Écoute Apocalypse c'était pas mal.
Ça non,
c'était de la merde.
Moi j'aime bien.
Il a, à ton tour.
On parlait à l'instant des films sans sous-titrage, il y en a eu deux, enfin peut-être plus, mais en tout cas deux dont je suis au courant, c'est-à-dire The Misandrist et Fluide Zéro.
En fait des films de cul quoi.
Voilà, des films de cul, mais justement je trouve dommage, notamment en termes d'horaire. Fluide Zéro donc, que j'ai vu, donc, réalisé par Chou Lia Chang.
Tout le monde disait Fluido, c'était marrant. Donc,
oui, tout le monde disait Fluido, et en fait ça se dit Fluide Zéro.
Ah bon, c'est un zéro, alors
voilà,
c'est
en 7 ans 0.
Barré, en fait, d'accord, 7 ans 0.
Et voilà, donc vous pouvez retrouver l'entretien avec la réalisatrice sur le site. Et bon, en partie pour cause d'horaire, puisqu'il y a eu deux diffusions, une pendant Defro Family et l'autre pendant la clôture de Tafoukaz. Mais qui est un film qui, pour le coup, est super intéressant, qui a été vendu plus ou moins comme un film pornographique, alors que c'est un film post-pornographique.
Bien sûr, la grande différence.
Donc, il y a quand même une différence, c'est que derrière toute une démarche politique, sociétale, bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça peut plaire à tout le monde, et c'est quand même très particulier, on voit quand même beaucoup d'éjaculation, de scènes de sexe non simulées, d'organes génitaux en gros plan, et ça non-stop pendant la durée du film, donc ça reste particulier, mais pour le coup, ça a été un film qui avait vraiment sa place à l'étrange, qui était juste pas simplement faire du bizarre pour faire du bizarre. Il y avait quand même un propos, on adhère ou pas derrière, on trouve que c'est les bons moyens pour le faire parvenir ou pas derrière. Mais pour le coup, c'est dommage parce que du coup, du fait des horaires de programmation, pas beaucoup de personnes ont eu l'occasion de le voir. Je crois qu'ici, je suis la seule. Ouais. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un incontournable, mais...
Non, parce que je pense que si on avait vraiment voulu le voir, on se serait arrangé.
Voilà. Mais bon, ça fait partie de ces films qui ont été distribués déjà sans sous-titres.
Ouais.
Et là, tout de suite, ça donne beaucoup moins envie. Surtout que le film est une production allemande, donc c'est un anglais. Mais moi-même, je me suis interrogée, est-ce que c'est un allemand ou un anglais ? Si c'est un anglais, ok. Si c'est un allemand, je ne parle pas un mot d'allemand. Et il n'y a pas de communication là-dessus, les personnes, voilà, en forme des images n'étaient pas au courant, donc il y a vraiment eu un problème vis-à-vis de ça, niveau communication et sous-titrage du coup.
Et Liberation Day aussi, il n'y avait pas de sous-titres.
Bah alors Liberation Day, il y avait des sous-titres, il n'y avait juste pas de sous-titres quand ils parlaient anglais en fait.
Voilà. Mais comme ils parlent anglais pendant 80% du temps.
L'accent est un petit peu compliqué en fait, l'accent scandinave en anglais.
Ils ne sont pas scandinaves, ils sont slovènes.
Oui, mais les réalisateurs ne sont pas slovènes.
Bah.
Voilà, et l'un des réalisateurs, on le voit tout le temps dans la caméra en train de parler en anglais. Et son accent n'est pas forcément facile à comprendre. Justin et Jérémy, pas de récrimination parce que vous n'êtes pas venus de toute façon.
Ouais, mais bon.
Justin, il a dit que la pub avant les ornans était trop longue. Donc, moi,
je suis d'accord avec
la pub non, la présentation.
Pas générique comme d'habitude.
Non, mais je sais pas lui.
De quoi il parle?
En fait, il a pris le truc de Justin pour faire passer un truc.
Voilà, c'est ça.
Victor.
Oui, c'est vrai que on a parlé de Sonotion qui est un peu un passage obligé des tranches festivals. Et du coup, c'est assez dommage de ne pas avoir eu déjà la version intégrale des 9h sur une journée, voire sur une nuit de Tokyo Vampire
Hotel. Ou sans les nuits.
Ouais, ils auraient pu faire une
nuit. Les nuits, ça coûte.
Ils auraient pu faire une nuit Tokyo Hotel.
Et ça aurait été intéressant d'avoir ça.
Les nuits étaient payées par Canal avant.
Sur ce notion, c'est vrai que tous les ans, il y a ces films. On n'a jamais vu Whispering Stars sur grand écran en France ou nulle part en France. Alors, c'est peut-être un choix de la programmation. Mais là, au niveau des coûts, il est sur une étagère de l'Enkatsu depuis maintenant un an.
Je sais que Whispering Star, ils ont et c'est pas un des films les plus importants de. Whispering Star, il n'avait pas projeté au moment en fait, où il passait à Toronto, parce qu'il y avait une question d'exclusivité avec Toronto. Mais du coup, ils peuvent très bien faire un rattrapage.
Oui, parce qu'il n'a pas été vu en France depuis ce moment-là. Et mon autre regret, c'était un rêve que j'avais eu, comme c'était juste après la diffusion du dernier épisode de Twin Peaks, hein, d'avoir les 18 épisodes sur grand écran.
Donc il y aurait eu combien de nuits avec ce notion de Twin Peaks?
Du coup, au moins, voilà, t'as quelques 20h, 25h.
Tirer du monde quand même.
Le fait qu'ils aient perdu leur partenariat avec Canal Plus explique peut-être aussi, puisque c'est Canal Plus qui a les droits de diffusion exclusive de Twin Peaks en France.
Donc le fait que Twin Peaks
n'était pas à l'étrange festival où il aurait très bien eu sa place cette année.
Et ben moi mon regret en fait rejoint un peu le tien sur les
Twin Peaks.
Non pas du tout sur les projections de films déjà vus à Cannes en fait entre les films vus à Cannes, les films qui sortent dans un mois ou deux ou trois, ça nous laisse quand même très peu d'exclus. Et sur les films asiatiques, j'adore le Japon et la Corée, hein, y a pas de problème, mais j'aurais bien aimé voir autre chose qu'un film philippin tout pourri. Les films indiens, il y en avait eu quelques-uns qui étaient très bons, d'autres un peu moins.
Ouais. Là,
aucun n'a été sélectionné. Ouais. Indonésie, Philippines, soit il n'y en a pas eu pour l'Indonésie, soit les Philippines, c'était nul. La Chine, alors il y a un film dont on n'a pas parlé, qui était 30 Years of Adonis, qui apparemment n'est pas génial non plus, donc on a eu Taïwan. Mais j'aimerais un peu plus de surprises, de petites pépites, parce que il y en a forcément des pépites dans ces pays-là.
Oui, moi je regrette parce que s'il y a le film de Joko Anwar, qui est un réalisateur indonésien, qui a fait un remake des Esclaves de Satan, qui est sorti à la fin, qui est sorti hier en fait en Indonésie, et qui aurait pu être à l'étrange en fait, totalement.
Oui, il aurait eu sa place à l'étrange en fait.
Ultra cher, et Joko Anwar est ultra connu. Donc,
j'ai l'impression en fait, soit il y a des problèmes de droits, de coûts, soit. C'est un travail fait un peu à la va-vite sur les marchés du film de Cannes, en fait, ou pas du tout d'ailleurs, les marchés de films, simplement les projections de Cannes. Donc je suis un petit peu déçue là-dessus, parce que l'Étrange Festival est quand même l'un des rares festivals à pouvoir nous montrer justement des films qui sortent de nulle part, dont on n'a jamais entendu parler, et qui sont bons. Alors que là, ils sortaient de nulle part, on n'en avait pas entendu parler, mais ils étaient quand même souvent pas top.
Ou on les avait déjà vus.
Ils n'étaient pas forcément bien non plus.
Après, il y avait quand même quelques petites pépites, mais pas asiatiques.
J'ai
l'impression qu'en fait, sur le marché asiatique, ils n'explorent pas assez de trucs. Alors que sur d'autres pays.
C'est possible. Hein.
On a un peu parlé, mais le film italien, Le Démon de la Place. Je voulais le placer quand même parce que c'est un.
Bah, Le Démon de la Place, je voulais le placer, ouais.
Ouais. Mm-hmm. Exactement.
Voilà.
Mais c'est un super film et j'espère qu'il aura un distributeur et qu'il sortira chez nous.
Chez nous. Eh bien, le podcast est terminé, donc on se retrouve le mois prochain, Victor.
Pour un podcast spécial Corée, j'imagine, avec le FFCP,
Victor
qui commence
qui commence fin octobre, mais je n'ai plus la date en tête.
Le 24 octobre.
Le 24 octobre, 24 octobre jusqu'au 31.
Ah, il y aura aussi la guerre Thor contre Justice League.
Ah, peut-être un beau testeur série, allez, Marvel DC, ça fait des années qu'on le prépare celui-là. Donc on le fera. See you Space Boys.
Au revoir.
Salut. あの子、誰？
いるじゃん。
死を捨てろ。
どうせ今日世界は終わるのよ。
この東京全てが燃えてしまう。
このホテルだけが残る。
あなた方は今夜から私のご飯になる。
ここのオーナーも従業員もみんなヴァンパイア。
お前ら人間どもが俺に勝てると思うか？
あなたは特別な日に予言された場所で生まれた。あなたが全く知らないパワーを持っている。
ハッピーバースデー！突っ走って生き切れ。それでも
俺たちはこの世界に呪われた生き物。
全部死んじまえ！